en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, l'année 1859 devrait être retenue comme point de départ de la grande révolution dans le monde de la biologie avec la parution du livre controversé « L'origine des espèces » de Charles Darwin. Elle marquera incontestablement un tournant dans les courants de pensée avec notamment le développement de la pensée évolutionniste. Pensée qui, par sa complexité, fut le thème présenté lors du colloque international 1859, archéologue et géologue dans l'épaisseur du temps, organisé par le Muséum d'histoire naturelle le 25 et 26 juin 2009 à l'Institut de paléontologie humaine. Ainsi, plusieurs chercheurs sont venus parler du lamarckisme et néo-lamarckisme par opposition au néo-darwinisme, qui ont marqué la deuxième moitié du 19e siècle et dessiné le nouveau paysage de la biologie. Canal Academy a suivi pour vous ce grand événement et va vous retransmettre en quatre parties certaines de ces interventions qui ont animé le débat. Vous allez donc écouter Stéphane Tirard, maître de conférence des universités à Nantes, parler des théories de l'évolution en dressant un tableau des courants de pensée qui ont controversé toutes les théories antérieures à 1859.
Je pourrais me contenter de vous parler de Darwin en 1859, de la publication de son ouvrage maître, L'origine des espèces, et de faire le point sur la notion de sélection naturelle adossée à la notion de variation. J'ai choisi néanmoins, pour vous présenter plus de théories et mieux vous présenter le contexte de cette époque et de cette année 1859 et des années qui vont suivre et qui vont donc occuper beaucoup des communications de ces deux journées, d'appréhender l'évolution au travers de cette notion assez jolie d'épaisseur du temps. Précisément, je vous propose donc d'essayer de voir comment, au travers des théories d'évolution, on peut comprendre comment certains auteurs ont relié l'histoire de la Terre, le temps de la Terre, et l'histoire de la vie, le temps de la vie. Alors, en tant qu'historien des sciences, en général, quand on nous donne une date, on commence par reculer dans le temps, par s'enfoncer dans l'épaisseur du temps. Et évidemment, je vais faire un petit saut en arrière, je vais vous parler très très rapidement de quelqu'un qui m'est cher, c'est-à-dire Lamarck. Non pas que je sois lamarckien, mais c'est en tant qu'historien des sciences. Lamarck a cette particularité remarquable pour un historien des sciences de s'être converti au cours de sa carrière et d'avoir changé de cadre théorique. Et c'est en 1802 que les choses se jouent, dans un discours qu'il prononce au muséum et dans un ouvrage qui s'intitule « Recherche sur l'organisation des corps vivants ». Là, il nous propose le cadre d'une nouvelle théorie qui lui permet de penser la transformation des êtres vivants. Une petite chose tout de même importante, Lamarck précédemment donc était fixiste et Lamarck avait développé une conception tout à fait personnelle de la chimie et de l'interprétation du fonctionnement de la matière. Lamarck considérait en effet que la matière complexe était le résultat de combinaisons et que ces combinaisons ne pouvaient être réalisées que par les êtres vivants eux-mêmes. Donc nous étions dans une situation de circularité impossible, c'est-à-dire qu'il fallait des êtres vivants pour fabriquer toute la matière et même la matière sur laquelle les êtres vivants se trouvaient devait être combinée par les êtres vivants. Comment tout ça pouvait-il avoir commencé? Pour lui, ce n'était donc pas un problème de science. Les choses changent lorsque, en 1802, donc dans les recherches sur les corps vivants, il propose ses idées sur la transformation des êtres vivants, ce qu'on appellera par la suite la transformation des êtres vivants. Et il présente cette théorie en commençant par une description des générations spontanées, ces générations spontanées qui étaient absolument impossibles dans ses conceptions antérieures. Alors, de la matière gélatineuse est présente dans les milieux, nous dit-il, agissent sur elle des fluides, deux types de fluides, les fluides incontenables, qui peuvent être la chaleur et l'électricité. Ces fluides incontenables déclenchent dans cette matière une sorte d'agitation qu'il appelle l'orgasme vital, donc une agitation qui permet aux molécules qui composent la matière de s'écarter les unes des autres et qui donc, cette agitation s'oppose à l'attraction qui tendrait à faire s'effondrer la matière sur elle-même. Des petits espaces s'aménagent entre les molécules qui composent la matière et les fluides contenables, l'eau et les gaz, peuvent circuler dans cette matière. Ils peuvent circuler dans cette matière et circulant Toujours de la même manière, parce que des courants d'eau semblent privilégiés, eh bien ce sont des ports particuliers, des petits espaces particuliers qui vont être progressivement transformés au sein de cette matière. Et la marque nous montre ainsi comment il peut obtenir les animalcules les plus simples, ces animaux qui sont au terme de l'animalité. Cette fois, il mobilise donc les générations spontanées et il montre comment on peut voir de la matière s'animaliser, s'organiser. Vous avez ici le modèle, en fait, de toute la théorie lamarckienne. On a la matière du vivant, on a les fluides qui agissent sur cette matière, l'habitude qui transforme cette matière et le temps long qui est nécessaire pour ces transformations. C'est assez remarquable de constater que finalement, dans cette description des générations spontanées qui était impossible précédemment dans les conceptions antérieures de Lamarck, eh bien, il arrive à modéliser toute sa théorie. Si vous consultez La philosophie zoologique, son ouvrage assez célèbre qu'il a publié en 1809, on peut en profiter pour fêter le bicentenaire de l'apparition de cet ouvrage cette année, eh bien vous pourrez analyser dans les additions ce tableau dans lequel il nous montre les séries qui démarrent avec deux types de générations spontanées. Des générations spontanées au niveau des vers. Les vers conduisent aux insectes, aux arachnides et aux crustacés. Vous avez une bifurcation qui conduit aux nasanélides, cirripèdes, mollusques, poissons, reptiles, oiseaux monotrèmes, les amphibiens, les cétacés, les ongulés, c'est là qu'on trouvera éventuellement les hommes, et les unguiculés. Une deuxième série débute avec les infusoires, les polypes et les radiaires. À ce stade, Lamarck a un petit peu raffiné qu'on peut difficilement encore appeler un arbre, mais pourquoi pas. Le problème chez Lamarck, par rapport à cette question de l'épaisseur du temps, c'est que ces générations spontanées existent en permanence. On a une forme de cyclicité chez Lamarck, un recommencement. C'est-à-dire que la diversité qu'on observe dans la nature est en fait le résultat de ce recommencement permanent. En d'autres termes, les animaux qui sont dans la partie haute de ces séries sont des animaux qui sont issus de transformations ayant débuté par des générations spontanées il y a moins longtemps que celles qui sont dans la partie basse sur ce tableau. La diversité actuelle est le résultat du recommencement permanent. Il y a comme une difficulté chez Lamarck à penser véritablement l'historicité, à penser véritablement l'épaisseur du temps. Pour poser tout de même la pensée lamarckienne, je vous rappelle les deux lois qui semblent fonder ce qu'on pourrait finalement appeler, parce que sa théorie manque véritablement d'intituler, une théorie de la modification de l'organisation par le perfectionnement. Première loi, dans tout animal qui n'a point dépassé le terme de ses développements, l'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe quelconque fortifie peu à peu cet organe, le développe, l'agrandit et lui donne une puissance proportionnée à la durée de cet emploi. Tandis que le défaut constant d'usage de tel organe l'affaiblit insensiblement, le détériore, diminue progressivement ses facultés et finit par le faire disparaître. L'utilisation de l'organe, l'habitude, le transforme donc. Deuxième loi, tout ce que la nature a fait acquérir ou perdre aux individus par l'influence des circonstances ou leur race se trouve depuis longtemps exposé et par conséquent, par l'influence de l'emploi prédominant de tel organe ou par celle d'un défaut constant de l'usage de telle partie, elle le conserve par la génération aux nouveaux individus qui en proviennent, pourvu que les changements acquis soient communs aux deux sexes et à ceux qui ont produit ces nouveaux individus. Vous avez reconnu évidemment le principe de l'hérédité des caractères acquis. Ça sera important pour la suite. J'en arrive à Darwin. Le retour en arrière était tout à fait bref. Darwin, donc 1859, parution de l'origine des espèces. Nous pouvons résumer sa théorie en choisissant un des résumés qu'il donne lui-même à un des chapitres de son ouvrage. Je vous le dis, je trouve qu'il est assez remarquable par sa concision et par sa capacité à concentrer l'ensemble de la théorie. Si, au milieu des conditions changeantes de l'existence, les êtres organisés présentent des différences individuelles dans presque toutes les parties de leur structure, et ce point n'est pas contestable. S'il se produit entre les espèces en raison de la progression géométrique, de l'augmentation des individus, une lutte sérieuse pour l'existence à un certain âge, à une certaine saison, ou pendant une période quelconque de leur vie, et ce point n'est certainement pas contestable, alors en tenant compte de l'infinie complexité des rapports mutuels de tous les êtres organisés et de leur rapport avec les conditions de leur existence, ce qui cause une diversité infinie et avantageuse des structures, des constitutions et des habitudes, il serait très extraordinaire qu'il ne soit jamais produit des variations utiles à la postérité de chaque individu. La notion de variation est donc absolument fondamentale pour comprendre la pensée de Darwin. De la même façon qu'il s'est produit tant de variations utiles à l'homme. Mais si des variations utiles à un être organisé quelconque se présentent quelquefois, assurément, les individus qui en sont l'objet ont la meilleure chance de l'emporter dans la lutte pour l'existence. Puis, en vertu du principe si puissant de l'hérédité, ces individus tendent à laisser des descendants ayant le même caractère qu'eux. J'ai donné le nom de sélection naturelle à ce principe de préservation. Nous avons là un concentré de la théorie de Darwin. Et j'attire votre attention sur ce graphe qui est en fait la seule figure de l'origine des espèces. C'est un schéma extrêmement dense. On pourrait passer un colloque entier à commenter cette figure. Il est juste question ici d'y jeter un coup d'œil. Darwin nous présente donc un certain nombre d'espèces, A, B, C, D jusqu'à L, plus ou moins ressemblantes les unes des autres, appartenant au même genre, et il nous montre comment, au cours du temps, ces espèces peuvent diverger. Chaque ligne horizontale correspond, nous dit-il, à environ 1000 générations. Mais un peu plus loin, il précise que ça pourrait être 10 000 générations. Et puis il nous dit aussi, chose importante et qui nous intéresse particulièrement ici, il nous dit que ça correspond également à la succession des temps géologiques. On voit sur ce schéma se rejoindre véritablement le temps biologique et le temps géologique. Alors évidemment, vous repérez facilement le fait que sur chaque ligne horizontale, il prend la peine de montrer qu'il y a de la divergence, des sortes de j'ose pas dire de bifurcation, et que certaines espèces sont sélectionnées, d'autres disparaissent. Et puis, on constate une chose importante, c'est que ce schéma n'a pas de repère absolu pour son commencement. Et on distingue, à la base, en dessous des lettres indiquant les espèces, des pointillés. Ces pointillés, précisément, nous attirent vers la profondeur du temps. Et avec cette profondeur du temps, Darwin a véritablement un problème. Il sait, Darwin, que des archives géologiques sont nécessaires pour pouvoir parler de l'évolution. Il le souligne tout à fait dans l'origine des espèces, et il souligne également le fait que l'on manque de ces archives. Or, quand il veut relier l'histoire de la Terre et l'histoire de la vie, quand il parlera du commencement de la vie, dans l'origine des espèces, il le fait de manière extrêmement succincte, dans les dernières lignes de l'origine des espèces, il nous parle d'un ancêtre unique, un très petit être, probablement unique, qui est à l'origine de l'ensemble des autres êtres vivants. J'en profite pour faire une petite mention au créateur, qui est probablement une mention de pure convenance. En fait, il n'en dira pas plus dans l'origine des espèces sur ce commencement. Il apportera des précisions dans une lettre à son ami le botaniste Hooker en 1871, une lettre dans laquelle je vous résume la teneur de cette lettre. Il explique que, probablement répond-il d'ailleurs à une question de Hooker sur les générations spontanées, que les générations spontanées ne peuvent plus avoir lieu dans la nature actuelle, parce que si le processus qui a eu lieu par le passé, qui a consisté en une transformation de la matière organique vers les êtres vivants, eh bien si cette complexification de la matière organique existait encore aujourd'hui dans une quelconque mare chaude sous l'effet d'une source d'énergie, eh bien cette matière organique serait consommée par les êtres vivants présents dans cette mare chaude. Autrement dit, et là c'est extrêmement important, la vie elle-même empêche le recommencement de la vie. Et là, nous touchons à des points absolument cruciaux de l'épistémologie de l'histoire, présente dans la pensée de Darwin. La recherche de l'archive, la contingence, qui est liée donc à tous les facteurs intervenant dans la variation et dans la sélection. Et les conséquences de cette contingence, eh bien, c'est le fait que si on peut construire une explication rétrospective, c'est-à-dire essayer d'expliquer rétrospectivement comment on est passé de l'état N à l'état N plus 1, on est dans l'incapacité de prévoir ce qui va se passer dans un processus historique, par ailleurs, donc l'imprévisibilité, et par ailleurs, donc, l'impossibilité d'une répétition, la non-répétabilité. Tout ça, donc, nous indique comment Darwin prend en charge cette épaisseur du temps, sachant très bien qu'il faut tenir compte de l'historicité du vivant et que appréhender cette historicité est nécessairement limitée par les archives dont on peut disposer, c'est-à-dire les archives paléontologiques, naturellement. Alors les choses se compliquent largement après Darwin. Les choses se compliquent parce que, certes, les thèses de Darwin ont un impact très très important, mais il y a également beaucoup de discussions. Et sans doute, c'est là que l'on trouve des théories pour l'évolution. Donc je dirais juste quelques mots sur certains auteurs très très rapidement. Herbert Spencer, dans ses principes de biologie qui présentent une évolution qu'on peut qualifier pratiquement de cosmique, où il nous explique comment, par les lois de la physique et de la chimie, on peut passer du minéral au vivant. Il nie l'idée d'un commencement absolu, d'un premier organisme. Il nie aussi l'idée d'un premier organisme social, donc une continuité présente chez Spencer. Et notons que Spencer, finalement, dans ses conceptions profondes, était probablement lamarckien, beaucoup plus que darwinien. Alors, un moment important dans cette histoire qui suit, les années 80, avec l'influence qu'aura l'allemand Weismann. Weismann qui, en 1883, va proposer que l'on sépare le soma et le germen, que l'on sépare donc les cellules appartenant à la lignée germinale, le destin des cellules appartenant à la lignée germinale des cellules appartenant au soma. Et donc, Weismann va s'opposer à cette idée de l'hérédité des caractères acquis qui a été si présente dans la biologie de cette époque. Darwin lui-même avait essayé de proposer une théorie de l'hérédité qui s'accorde avec à la fois l'hérédité des caractères acquis et sa propre théorie de la sélection naturelle, avec sa théorie de la pangénèse et des gémules, qui étaient donc émises par toutes les cellules de l'organisme et transmises via la semence aux organismes suivants. L'apport de Weismann va engendrer un clivage dans la communauté des biologistes entre les néo-darwiniens et les néo-lamarckiens. C'est ainsi qu'ils vont s'interpeller en ajoutant donc ce préfixe néo à chacun des courants. Simplement pour illustrer très rapidement la complication des choses. Si je prends le cas de néo-lamarckiens français, car vous savez que notre pays a été le lieu d'une grande culture néo-lamarckienne à la fin du 19e et au début du 20e siècle, je prends le cas de botanistes français. Ça nous éloigne encore plus de l'homme, mais pourquoi pas finalement, ça nous parle du contexte dans lequel évolue cette biologie. Je prends le cas de Gaston Bonnier. Gaston Bonnier, néo-lamarckien, panspermiste. Gaston Bonnier, qu'on ne concevait pas qu'il puisse y avoir une évolution de la matière sur la Terre, et il imaginait que la Terre avait été ensemencée par des particules déjà vivantes. Constantin, botaniste lui aussi, néo-lamarckien, mais lui concevait qu'il pouvait y avoir une évolution de la matière, donc il imaginait une continuité entre l'évolution de la Terre et l'évolution du vivant, en les reliant par une évolution de la matière. Leur maître à tous les deux, Van Tieghem, botaniste lui aussi, néo-darwinien mais panspermiste. Donc vous voyez une hétérogénéité, une grande complexité. C'est ce qu'on doit retenir, qu'il y a eu véritablement une très très grande diversité de points de vue dans la biologie française notamment et dans les conceptions néo-lamarckiennes, avec donc une constante qui est l'hérédité des caractères acquis, mais il faut sans doute regarder les choses un peu plus finement. Les travaux de Laurent Loison le montrent très bien. On espère qu'ils vont être bientôt publiés. En travaillant sur la notion de plasticité, en la comparant à l'hérédité, on peut voir quand même ce qu'il y a de commun dans cette diversité des pensées néo-lamarckiennes. Un petit mot sur le cas de Ernst Haeckel pour montrer encore une fois cette complexité que pouvaient avoir les pensées évolutionnistes à la fin du 19e siècle. Vous savez que Haeckel a été un acteur très très important dans la diffusion de l'évolutionnisme. Il a été un acteur très important dans la diffusion du néo-darwinisme. Par exemple, l'Espagne est un pays dans lequel le néo-darwinisme a été introduit grâce au livre d'Haeckel, et paradoxalement, Haeckel est quelqu'un qui a manié darwinisme et lamarckisme simultanément, et on peut considérer que même s'il a soutenu les thèses darwiniennes, il est resté lui-même dans son interprétation de l'évolution extrêmement, extrêmement lamarckien, et il n'a pas hésité à relier ses conceptions évolutionnistes de conceptions philosophiques un petit peu plus larges, et donc à son monisme. Alors, pour faire le lien avec les exposés qui suivront et l'homme finalement, on peut voir dans, on peut jeter un œil à ces tables, à ces tableaux donnés par Haeckel. Notez qu'il était en mesure dans son histoire de la création, par exemple, mais on peut trouver ces tableaux dans maintes de ses publications. Il pouvait relier donc l'histoire de la Terre avec l'histoire des êtres vivants. Vous avez ici ce qu'il appelle un arbre généalogique unitaire ou monophylétique de la classe des vertébrés. Et évidemment, les choses s'affinant, on peut arriver à des arbres mobilisant cette fois l'histoire de l'homme. Et par exemple, sur cet arbre, on n'a pas le temps de le détailler, eh bien, vous pourriez trouver l'histoire des 12 espèces humaines selon Haeckel. Donc, penser l'évolution, une façon de prendre en compte toutes ces théories de l'évolution, c'est de considérer les choses en termes de temps, d'historicité. C'est un fil conducteur pour les analyser. Et je pense que finalement, les comparer les unes avec les autres, eh bien, c'est peut-être aussi prendre en compte qu'elles ont été en débat sur précisément l'épaisseur du temps. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter l'intervention de Stéphane Tirard, maître de conférence des universités à Nantes. Cette émission est téléchargeable sur le site de Canal Academy. Vous pouvez également écouter les 3 autres parties de cet exposé qui retransmettent pour leur part la naissance de la préhistoire méditerranéenne, les débuts de l'archéologie préhistorique entre religion et exil et l'art dans la préhistoire. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.